Frères et sœurs, je suis honoré d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet délicat. On me l'a déjà dit, pour ne pas dire difficile. Enfin, nous allons regarder ça ensemble. Et que le Seigneur nous soit en aide. Mais avant de venir au sujet, j'aimerais bien profiter du fait que je suis devant vous pour dire deux, trois choses. Mais tout à fait autre chose. D'abord, dans la salle des expositions, vous trouverez quelques panneaux qui font partie d'une exposition que je prépare pour marquer la loi du 9 décembre 1905, que la France va commémorer l'année prochaine. Je pense que cela nous donne l'occasion, justement, pour annoncer, avec délicatesse, avec sagesse, mais annoncer quand même la parole, l'évangile, aux maires et aux conseillers municipaux de notre commune. C'est dans ce but-là que j'ai eu la pensée de préparer justement cette exposition. Vous vous rappelez peut-être en 1998, c'était le 4e centenaire de l'édit de Nantes, et nous avions une exposition. D'ailleurs, il y avait une exposition qui était préparée par le ministère de la Culture, qui était d'ailleurs très bien, à laquelle nous avons ajouté d'autres choses en rapport avec Henri IV et puis certaines versions de la Bible. Et ça nous a donné l'occasion d'annoncer l'évangile plusieurs fois dans des communes différentes. Et ça valait la peine. Cette fois-ci, pour 1905, j'ai pensé peut-être que le ministère de la Culture allait préparer encore quelque chose. Ça n'a pas été le cas, de ce que je sais. Il y avait un député dans le Nord qui était censé dire ou préparer ou présider une commission, quelque chose. Bon, je n'ai pas eu d'écho, je lui ai téléphoné, enfin il m'a téléphoné aussi, mais bon, il n'a rien d'officiel. Alors je me disais, je vais foncer. Et le titre de l'exposition, c'est Dieu est où ? Pardon, César est où Dieu ? Et ça trace la longue lutte en France pour la liberté de pensée religieuse jusqu'à 1905. C'est là le thème, alors avec des paroles différentes qui parlent des cathares, qui parlent de la réforme, etc., etc., pour venir à la loi sur la séparation. Et puis, dernier panneau, avec, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, avec cette espèce d'arc-en-ciel stylisé, je voudrais mettre quelque chose qui peut interpeller les gens qui le regardent. Il y a deux feuilles à ce sujet. Je vous encourage à les prendre, ça explique un peu le but et également le contenu, parce qu'il n'a qu'une petite partie, à peu près 25% de l'exposition. Les deux feuilles sont en bas, « Servez-vous, mes frères, mes sœurs ». Autre chose, toujours en bas, sur la même table, à la fin, il y a un document sur la protection des enfants, des mineurs, qui peuvent fréquenter les locaux de notre église. Si j'ai fait ça, c'est grâce à une idée qui est venue de l'Angleterre, de notre assemblée jumelle, qui a dans ses locaux justement une école maternelle, et ils ont un document assez épais. J'ai appris que la plupart des églises évangéliques et non évangéliques ont des documents pour concernant la protection de leurs enfants. Et ça m'a donné, comme je disais, l'idée. Nous avons donc fait quelque chose. Et il y a une quarantaine d'exemplaires. Servez-vous. S'il n'en a pas assez, alors essayez d'avoir, si vous désirez, une photocopie de ce que nous avons écrit à Arras. C'est accompagné d'un article qui a été publié dans l'InfoFef et qui explique pourquoi nous avons fait ce travail. Il n'y a pas de copyright, vous pouvez le photocopier comme vous voulez. Une autre chose que j'aimerais bien dire avant de venir à un autre sujet, c'est concernant un petit livret qui a été publié dernièrement par la FEF et qui s'appelle « Liberté de conscience, liberté d'expression ». Alors il y a un certain nombre encore sur la table en bas, vous pouvez en prendre. Vous mettrez ce qu'il faut, n'est-ce pas, dans un petit gobelet qui est là, en plastique. Mais en quelque sorte, ça a été écrit par Alain Stamp et Daniel Lechty, du comité national de la FEF. Et en quelque sorte, c'est une apologie qui est pour les autorités les députés, les sénateurs ont reçu chacun le copie, mais aussi les autorités dans notre commune pour dire que nous avons le droit de nous exprimer. Il y a la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et ce n'est pas un vulgaire prosélytisme que nous faisons quand nous faisons une réunion d'évangélisation, mais c'est simplement en obéissant à un mandat qui vient d'en haut, qui vient de notre Seigneur. Dernier petit détail qui va peut-être vous faire sourire, d'une manière ou d'une autre, à Arras, nous avons ramassé des petits gobelets en plastique pour la Seine. David Sutherland m'a dit qu'il en a 2000. Bon, ça vient des États-Unis, je pense qu'on les jette tout de suite après aux États-Unis, hein, mais nous les lavons. Alors il y a ces 2000 petits gobelets qui restent. Où est David Sutherland? S'il peut lever la main. Ah, il n'est pas là. Bon, il est parti se promener. Ah, voilà, il est là. C'est lui le vendeur. Moi, je ne vends rien. Vous le verrez après, si ça peut vous intéresser. Et si, chers frères, vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas une seule coupe, ah, il y a des raisons pour ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans notre assemblée, il y avait le risque que quelques personnes, 2-3 personnes qui étaient là, pourraient être positifs au point de vue HIV. Et alors, à cause de ça, on a décidé d'avoir des petits gobelets. Bon, ça c'est un détail. Bon, maintenant nous allons venir à ce sujet. J'aimerais bien d'abord lire un verset de la Bible, je pense, qui résume assez bien et qui nous indique ce que nous devons faire. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Pierre, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. » Je le relis parce que c'est important. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, ça c'est la préparation pour notre cœur, mais soyons toujours prêts à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais nous devons le faire avec douceur et avec crainte. » C'est une invitation au dialogue interconfessionnel. Nous allons trouver d'autres versets de la Bible par la suite. J'ai donc été invité par la commission de service de traiter de ce sujet, dialogue interconfessionnel. Et je remercie ces frères de leur confiance et j'espère que je ne vais pas trahir le confiance. Sans doute, je suis censé être un petit peu le porte-parole de la commission théologique. Je veux bien l'être, mais seulement nous n'avons pas consulté ensemble. On n'a pas décidé ce que je devais dire. Donc il y a une certaine liberté qui m'échoit. Et j'en suis content jusqu'à un certain point. Non pas que je vais dire de méchantes choses, au contraire. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je dois vous dire. J'ai demandé conseil même à Reinald Kosicki, surtout concernant le temps que j'allais avoir. Et remarquez, il n'a pas de pendule ici. Alors c'est très bien. Non, ça va aller comme ça. Alors, je vais dire un certain nombre de choses. Vous allez en parler demain, ou peut-être même à la fin de la réunion. Et si vous avez des critiques, moi je suis ouvert à vous écouter. Ça ne me gêne absolument pas. Mais c'est au moment de la table ronde qu'on pourrait approfondir davantage. Je suis aussi content de prendre la parole parce que je peux clarifier un peu ma position. Vous avez vu, dialogue interconfessionnel. Et puis des noms. Il y a François-Jean Martin, Daniel Brèche, Jean-Paul Rent, Pierre Huillère. Dialogue interconfessionnel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'il était contre. Et je le suis. Ah! Je le suis. Et ce qui est compliqué, jusqu'à un certain point, non, ne vous en faites pas. C'est, j'ai écrit à ce sujet, mais dans le cadre de l'écuménisme. Et alors, j'ai parlé à ce sujet. Ça, c'était à une table ronde à Bourg-sur-Seine. Le livre qui est ici, c'est concernant le dialogue entre catholiques et évangéliques. Ce n'était pas que nous avons dialogué avec les catholiques et les évangéliques à Bourg-sur-Seine, c'était sur le sujet. Il y avait une table ronde, on m'a demandé de participer, j'ai participé, et j'ai dit un certain nombre de choses qui peut-être n'ont pas plu à tout le monde, notamment à certains catholiques qui étaient là dans la salle. Mais ce que je regrette, c'est qu'à la fin, je n'avais pas le droit, enfin, personne n'avait le droit de dire son mot à la fin. Que j'aurais mis un petit peu de sucre dans ce que j'avais dit. Bon. Alors, Pierre Wyler, il n'a pas changé son fusil d'épaule, mais nous allons parler de pas mal de choses. Et la première chose, si mon frère là, juste devant moi, Jean-Marc, peut le montrer, voilà, je voudrais faire quelques remarques concernant le travail que nous avons accompli. D'abord, concernant la composition de la commission théologique, vous l'avez déjà lu peut-être dans ce que François-Jean Martin a écrit, qui est dans le cahier de la conférence. Alors, officiellement, il y avait 4 membres, c'est-à-dire François-Jean Martin, qui était l'animateur, le président, Daniel Brèche, moi-même, et puis Jean-Paul Rempe, qui n'a pas pu toujours venir pour nos séances de travail. Mais pour ce travail sur le dialogue, il y avait les 3 qui ont commencé, et puis Jean-Paul Rempe est venu, nous étions fort contents, et puis par la suite aussi Jean-Pierre Bory. Et je crois que c'était vraiment nécessaire que nous soyons au moins à 5 pour sonder et pour essayer de cerner convenablement ce sujet délicat. Je vous fais remarquer que l'édition que vous avez reçue n'est pas l'édition définitive. L'édition définitive est encore à venir. D'abord parce que dans le chapitre 2, il y avait pas mal de choses qui ont été votées, des ajouts à ce texte. C'est Daniel Brèche qui avait fait principalement ce travail. Et ces choses ne se trouvent pas dans l'édition actuelle. Ensuite, concernant le chapitre 5 et les situations concrètes, on a évoqué un certain nombre de situations très concrètes, mais il y en a d'autres qu'on devrait quand même évoquer, telles que par exemple les enterrements évangéliques. On a parlé des mariages, quelquefois il y a des situations, on se demande si on doit participer même avec un curé, bon. Mais pour les enterrements évangéliques, c'est mon expérience, j'ai été davantage sollicité. Et il faut savoir exactement comment on va faire, comment on doit faire. Et puis j'avais proposé d'autres petites réflexions. Alors certainement, il va y avoir encore une séance. Et puis, il y a des choses qui manquent. Il n'y a pas de table de matière. Vous avez peut-être remarqué ça. Dès que j'ai reçu la copie que vous avez reçue, moi j'ai fait ma table de matière. Quand je commence à lire un livre, je commence avec la table des matières. Je voudrais avoir une vision globale. Et puis, en rapport avec ça, ce qui manque encore, à mon avis, c'est une introduction qui présente en quelques mots les différents chapitres. Je crois que ça c'est nécessaire et je pense que ça va venir. Remarquez que notre texte, malgré tout, est subjectif. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, nous sommes plusieurs personnes. Nous avons chacun fait des expériences dans le domaine du dialogue, avec d'autres personnes, dans différentes régions de la France, et nous avons tiré de ces expériences que nous avons vécues un certain nombre de données. Et nous les avons mis dans le livre. Alors, ça transperce en quelque sorte le texte que vous avez reçu. Et alors, il faut le reconnaître, ça peut présenter certaines faiblesses, en même temps, c'est bon quand même de connaître certaines expériences. À mon sens, nous n'avons pas peut-être assez insisté sur une ligne que je trouve dans la parole de Dieu et dont nous allons parler tout à l'heure. J'ai mis le petit E, je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi, oui, manque de clarté. Bon, je dis ça surtout pour le chapitre 4. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dans ce chapitre, nous commençons à parler du dialogue interconfessionnel avec les évangéliques. Puis d'un seul coup, on change d'objectif et on parle du dialogue avec les églises multitudinistes. D'abord les confessantes, puis les multitudinistes, bon, les catholiques, les réformés. Et alors il n'a pas une petite préambule, il n'a pas une petite introduction à ce sujet. Et il me semble que ce n'est pas clair. Bon, nous allons voir cela, cuisine intérieure, par la suite, Dieu voulant, et que nous soyons plus clairs. Je dois dire que personnellement, je suis très attaché à ce que dit Rome. Il a deux sources d'informations qui viennent de Rome, d'abord de Jean-Paul II dans ses encycliques, et ensuite de la Congrégation de la foi, Ratzinger. Et les deux, me semble-t-il, ne sont pas toujours d'accord. Mais je suis attaché à ça, mais en même temps, je reconnais ce qu'on peut vivre sur le terrain, parce que ce qu'on trouve sur le terrain n'est pas toujours en accord avec ce qui nous vient de Rome, du Vatican. Le grand B, vos réactions, avec un point d'interrogation, et il y a quelques exemplaires que vous pouvez prendre après ça si vous voulez y avoir ça comme aide-mémoire, mais j'aurais dû ajouter vos réactions et une ligne biblique. Vos réactions concernant le texte vont être aussi subjectives, parce que vous avez vécu des expériences, vous connaissez les catholiques dans votre paroisse, j'allais dire, ou dans la paroisse catholique où vous habitez. Et vous avez eu des contacts, bons ou mauvais. Alors, vos réactions vont être subjectives. Ça dépend de votre arrière-plan, comment vous avez été élevé. Vous avez peut-être trouvé le Seigneur dans la rue, et puis vous avez trouvé par la suite une assemblée. Et cette assemblée a certaines options. Vous avez été coloré par cela, c'est évident, on ne peut pas s'en passer. Et puis, encore une fois, surtout pour ceux qui sont responsables, vos réactions dépendent des expériences que vous avez vécues sur le terrain ou votre manque d'expérience. Vous savez, autrefois, on se coupait avec les autres, surtout avec les églises multitudinistes. On ne voulait pas de contact. Je crois que nous avons, nous, les frères, nous avons exagéré dans ce domaine. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Mais certaines, peut-être, de nos assemblées n'ont pas de contact, ne veulent pas de contact. Et alors, évidemment, ils ont une idée subjective concernant le dialogue interconfessionnel. Toujours est-il, le petit B de grand B, tout extrémisme est à éviter. Il faut l'éviter. Et il y a des extrémistes. Moi, je reçois des journaux, quelquefois, des personnes qui ne croient pas qu'un catholique peut être sauvé par grâce. Entre nous, nous avons même un frère, il n'est pas membre de notre assemblée, mais il est dans notre assemblée, c'est un Maltais, et il croit cela. Il ne veut pas qu'un catholique soit converti à Jésus-Christ. Enfin, c'est une position extrémiste. Et puis l'autre extrême, c'est que l'Église catholique, c'est une dénomination chrétienne, comme les autres, et au fond, tous les catholiques ne sont pas peut-être vraiment convertis, mais on peut les appeler des chrétiens. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'attitude ces derniers temps de Billy Graham, pas en France. Mais en Angleterre, par exemple, j'étais surpris, il y a quelques années, déjà, il y avait des catholiques sur l'estrade avec Billy Graham. Il y avait des conseillers catholiques qui étaient parmi les personnes qui étaient là pour amener les gens au Seigneur après. Ce n'est pas arrivé en France, et je remercie maintenant ceux qui ont organisé les dernières campagnes de Billy Graham en France d'avoir pu résister. Je crois qu'il y a eu une petite résistance à ce désir. Et je ne comprends pas très bien notre cher frère Billy Graham. Mais enfin, ce genre de choses était à éviter. Il y a quelques années de cela, un livre est sorti, je ne pense pas que ça ait été traduit en français, « Évangélique et catholique ensemble ». Ça vient des États-Unis. Alors, je ne comprends pas. C'est Charles Colson. Vous avez entendu parler de lui, il était dans l'affaire Watergate de Nixon. Et il a fait un travail splendide par la suite dans les prisons. Mais enfin, il est dedans, on m'a dit que son épouse est catholique. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas pu contrôler. Mais enfin, ça pourrait être une influence. Reconnaissons-le, mes chers frères, hein, c'est comme ça. On est quand même influencé par notre épouse. Hein ? Reconnaissons-le. En principe, pour nous, toujours en bien. Mais enfin, ce livre-là regarde l'Église catholique comme étant simplement une dénomination chrétienne, c'est tout. C'est une position extrême que nous ne pouvons pas accepter. Maintenant, est-ce qu'il y a une ligne biblique ? J'ai mis là, le petit C, la doctrine biblique de la séparation. Je dois rire un petit peu avec cette expression. Parce que, il y a quelques mois de cela, j'avais écrit à un frère, un pasteur évangélique, alors un bon frère, hein, que j'aime bien, mais j'avais parlé, dans ce que je lui ai dit, concernant la doctrine biblique de la séparation. Il m'a répondu d'une façon assez nette et claire. Il disait, il ne connaissait pas, pour ainsi dire, il avait regardé dans l'ouvrage de Jules Marcel, Nicole, précis de doctrine chrétienne, il n'a pas trouvé un chapitre sur la séparation. Bon, je le comprends, mais il est là. Et autrefois, je le dis de nouveau, nous, les frères, nous avons exagéré dans ce domaine. Nous n'avons pas voulu de contact. Mais c'est quand même une doctrine biblique. Et je le vois surtout en rapport avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham ? Le Seigneur l'a fait sortir de Ur en Chaldée, en Babylonie. Il arrive à Charan ou Haran en Syrie, et le Seigneur attend là un petit moment, et puis il le sépare des autres membres de sa famille. Il descend dans la terre promise, et la promesse lui est donnée. Mais le Seigneur n'a pas terminé son travail avec Abraham. Il avait Lot, le neveu à côté, qui était, bon, chrétien plutôt tiède. Et alors, il fallait une séparation. Et ça continue encore après cela, avec Agar, avec Ismaël. Le fils de la promesse ne pouvait pas hériter avec le fils d'Agar. Et il avait séparation. Et c'était un moment très dur pour Abraham, cette séparation. Et le Seigneur, il était plein de grâce pour Agar. Parce que la première fois que nous lisons de la visite de l'ange de l'Éternel, c'est envers cette Égyptienne. Cette Égyptienne qui était simplement une mère porteuse. Mais Dieu a envoyé son ange, nous croyons être Jésus-Christ, auprès d'elle, alors qu'elle était dans le désert. Alors nous voyons l'amour de Dieu, mais il fallait cette séparation. C'est la doctrine de la séparation. Mais cette doctrine est toujours tempérée. Et là, je fais référence encore à Abraham. Vous vous rappelez, quand Lot était pris captif par les Mésopotamiens, il était emmené, et Abraham, inquiet, et il trouve ses serviteurs, et il leur donne des armes, et ils s'en vont pour chasser les Mésopotamiens, et puis pour recapturer Lot. Ils y arrivent. Mais nous disons qu'il y avait trois jeunes gens qui sont allés avec Abraham. Aner, Eshcol et Mamré. C'était des Amoréens, c'était des Cananiens en quelque sorte. Ils sont allés, ils avaient fait alliance avec Abraham. Abraham avait fait alliance avec eux. Et à la fin de l'épisode, Abraham refuse quoi que ce soit du butin de la part du roi de Sodome, mais il dit, les jeunes gens qui sont venus avec moi, hein, il faut bien les traiter, ils ont droit à un certain butin. Alors cet effet, cette pensée qu'Abraham était en alliance, on ne sait pas la nature de cette alliance, mais avec des Cananiens, avec des Amoréens, ça me montre que la doctrine de la séparation concernant Abraham est quand même tempérée. Je pense aussi à David. Nous connaissons David. David, Goliath, et on dirait qu'il n'a qu'une parole dans sa bouche quand il parle des Philistins, qu'il ne peut pas piffrer. Ce sont des Philistins incirconcis, avec ses histoires de prépuces et puis tout le reste. Vous connaissez. Bon. Mais qu'est-ce qu'on trouve un petit peu plus tard ? Quand il est chassé par le coup d'État d'Absalom, il y a un dénommé Ittaï qui est avec lui. Ittaï de la ville de Gath. Goliath vient de Gath. C'est incroyable. Et Ithaïe était là avec les Pélétiens, avec les Kérétiens. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'était aussi des Philistins. Et ils étaient ensemble pour combattre les ennemis de David, des Philistins. Alors encore une alliance. Vous voyez l'équilibre de la parole de Dieu. Et c'est la même chose en rapport avec Élisée. Élie, Élisée, travaillaient ensemble. Enfin, Élisée est venu après, avec la puissance d'Élie. Élie et les prophètes de Baal, ils étaient mis à mort. Probablement, c'était des Israélites qui étaient apostats. Bon. Mais alors, en 2 Rois chapitre 5, quand il y a Naaman, le Syrien, qui vient auprès d'Élisée, et qui voudrait lui donner, après avoir été guéri, un cadeau, Élisée refuse, et puis il est gêné, Naaman. Je crois que ça vaut la peine simplement de lire ce petit verset. Il dit ceci: ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. C'est un converti, vous êtes d'accord avec moi. Et puis après ça, que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur: quand mon Seigneur, c'était le roi de Syrie, entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Rimmon, c'était le dieu des Syriens. Et Élisée lui dit: va en paix. Vous voyez combien la parole de Dieu est équilibrée et cette doctrine de la séparation est tempérée. Je crois que ce sont des choses à retenir, et surtout en rapport avec ce que nous avons à faire, en rapport avec des personnes qui ne sont pas converties, si vous êtes catholique ou protestant, orthodoxe ou encore autre chose, nous devons nous rappeler de ces choses. Et il n'y a pas d'absolu. Il y a toujours une certaine marge pour que le Saint-Esprit puisse travailler, puisse nous conduire, non pas pour trahir notre position ou ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Je crois que c'est Balaam qui a le mieux dit concernant la séparation d'Israël. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Un peuple séparé, complètement sanctifié. Et nous avons cette pensée dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6, nous connaissons. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? C'est la doctrine de la séparation qui continue. Mais nous allons voir bientôt, enfin dans quelques instants, avec le Seigneur Jésus, comment lui, il est entré dans le dialogue interconfessionnel. Nous venons maintenant au C, les risques de tout dialogue. Oh, nous en avons déjà parlé. D'ailleurs, ici, dans ce petit dépliant, j'ai trouvé que c'est très très bien dit. Qu'est-ce que le dialogue? Quelles sont les conditions préliminaires à un vrai dialogue? Ce dialogue comporte-t-il un risque? Mais oui, prière commune, collaboration, communion. Si oui, dans quelles conditions? Que ferait le Seigneur à notre place? Trouve-t-on des repères bibliques? Nous donnons une certaine réponse à cela maintenant. La réponse n'est pas aisée. Elle prête souvent à discussion dans nos églises. Les réponses et les actions engagées divergent d'une communauté à l'autre. Agissons-nous toujours en mesurant les conséquences à long terme d'un pas accompli aujourd'hui? C'est là où nous devons beaucoup réfléchir. Nous ne sommes pas responsables pour ce qui arrivera demain, mais ce que nous faisons aujourd'hui va influencer la génération future. Alors, quels pourraient être les risques de notre dialogue? Alors, le premier risque que je constate, c'est le petit a, c'est d'être ignorant de ce que Rome dit, ce qu'elle a écrit, ce qu'il propose. Je crois que c'est le problème numéro un. Je pense à tous ces encycliques du pape. Est-ce que vous les avez lues? Les lettres apostoliques. Est-ce que vous les consultez? Quand, par exemple, un des derniers qui est sorti, l'Église vit de l'Eucharistie. Et quand on voit la place qu'il met à la messe, l'Eucharistie, pour qu'il ait une vie d'Église. Et si on ne l'accepte pas, on n'est pas dans l'Église. Ce sont des choses comme ça. Il a écrit encore une paire de bouquins après, que je n'ai pas encore lu. Vous vous rappelez de Dominus Iesus, qui était sorti de la congrégation de la foi, signé de Jean-Paul. Je ne sais pas s'il était vraiment d'accord, mais Ratzinger, il voulait dire cela. Il disait de bonnes choses. Ah, il y a certaines troupes du Vatican qui ne marchent pas droit. Hein. Les théologiens qui se trouvent aux Indes, ils ont des idées un peu farfelues concernant l'hindouisme, le bouddhisme, etc., n'est-ce pas? Et alors, ils ne marchent pas droit. Alors, Ratzinger, il dit, attention, n'est-ce pas? Il n'a qu'une chose, n'est-ce pas? Un salut, et c'est en Jésus-Christ. Hein, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est bien, nous sommes d'accord avec lui. Mais après cela, il commence à parler non pas des autres églises, mais des communautés ecclésiales. Il ne les met pas dans l'église. Et moi, je me souviens avoir discuté avec quelqu'un de catholique, je crois que c'était un frère enseignant, et même c'était amusant. Et il a dit, mais peut-être il faut attendre un petit peu que tout ça, cette génération Ratzinger et Jean-Paul II, est partie. Et puis après ça, on pourrait mieux travailler ensemble. Bon, je devais rire un petit peu quand il a dit ça. J'étais un petit peu d'accord aussi avec lui. Mais enfin. Mais nous ignorons ce que dit Rome. Et finalement, dans toute discussion, c'est cette parole, c'est sa parole, c'est le parole qui va compter plus que ce qu'on entend sur le terrain. Et c'est très important. Et puis l'autre problème, c'est le petit B de notre C, les risques de tout dialogue, c'est le risque de ne pas annoncer nos intentions. De ne pas annoncer nos intentions. Vous savez, c'est bien quand on dit du bien de nous. Et on dit du bien des évangéliques, des protestants. Nous avons la Bible. Et les catholiques commencent à le connaître, mais ils ne le connaissent pas comme nous. Je dis ça sans nous jeter des fleurs. Et alors on est content, on est caressé, on est léché en quelque sorte, hein, comme un gros toutou qui vient nous lécher. Hein. Et puis ça fait plaisir. Et alors quand on commence à parler avec les... Ils croient qu'on veut trouver un compromis. Alors que peut-être ce n'est pas notre but, pas du tout, enfin pour moi. Et alors il faut annoncer clairement, on veut bien discuter, on veut bien parler, mais il n'est pas question de trouver un compromis. On ne va pas lâcher du lest, on va tenir à ce que dit la parole de Dieu. Et si nous sommes clairs, je pense que le Seigneur peut bénir notre parole. Au fond, les évangéliques ont deux options. La première, c'est de nous informer et d'informer les autres. Et ça, depuis Vatican II, c'est merveilleux. On n'a jamais eu autant de contacts avec les catholiques pour leur expliquer ce qu'est la foi biblique, la foi évangélique. La porte est grande ouverte et il faut que nous en profitions. J'ai dit ça dans mon livre sur l'écuménisme, mais sur cette édition-là, pas dans la première édition, seulement dans la deuxième. Et j'insistais là-dessus, parce que l'Église catholique est encouragée à faire de l'œcuménisme, enfin, il appelle comme cela. C'est pas tout à fait le dialogue interconfessionnel, mais enfin, ce sont des cousins germains, en quelque sorte. Alors, ça se touche. Alors, nous devons nous informer, même pour les autres religions. Je peux vous dire personnellement, si jamais dans la ville d'Arras, il y avait une exposition sur le Coran, je serais parmi les premiers à y aller. Parce que ça m'intéresse. J'irai, n'est-ce pas, même si les Mormons étaient là avec une exposition sur le livre du Mormon, j'irai pour m'informer. Et essayer de les informer de ce que, non pas de ce que nous croyons, mais de ce que dit la Bible. Et puis l'autre devoir, l'autre option que nous avons, et là, il faut y tenir. Nous devons annoncer la parole de Dieu, et j'ai mis là, à la Jésus-Christ, à la manière de Jésus-Christ. Et là, je prends un exemple du dialogue interconfessionnel que le Seigneur a tenu avec la Samaritaine. Et je fais remarquer plusieurs choses. D'abord, pour notre Seigneur, ça a commencé dans l'humilité. Il demande à boire la cruche de cette Samaritaine. D'abord, les Samaritains, c'était des impurs. Et ils adoraient Dieu sur le Garizim, le mont Garizim, et non pas à Jérusalem. Ils n'avaient que le Pentateuch. Ils n'avaient pas le reste du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Alors, c'était des gens, en quelque sorte, qui étaient impurs. Et nous le savons, n'est-ce pas, les Juifs n'avaient pas de contact avec les Samaritains. Mais ensuite, il y a la Samaritaine. Cette femme qui a eu 5 maris, parce qu'ils étaient tous ses maris, et le 6e n'était pas son mari. Enfin, là, le Seigneur est net et clair. On a discuté un petit peu de cela dans la commission théologique. Bon, on ne voulait pas blâmer cette femme, mais enfin, il y avait quelque chose là, on peut dire d'impur. Il demande à boire à sa cruche. Formidable, ça. Et ça a donné un contact. Et puis, après cela, ce que j'aime avec notre Seigneur, c'est l'audace dont il était témoin. Il était audacieux. Il disait des choses nettes et claires. D'abord, il dit concernant le puits de Jacob, c'était de la bonne eau, hein, mais quand on buvait de cette eau, on avait encore soif après. Alors que lui, il pouvait donner de l'eau vive, qui allait jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Net et clair, n'est-ce pas? C'était quelque chose en complète contraste avec ce que croyait la Samaritaine. Mais le Seigneur continue dans son audace. Après ça, il parle de la question, justement, de son homme, son concubin, et puis peut-être les 5 autres. Il dénonce ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas moral dans sa vie, sans hésitation. Il ne semble pas qu'il monte sur ses grands chevaux pour le dire. Il dit simplement, va chercher un petit peu ton mari. Mine de rien. Enfin, on a l'impression. Vous savez ce que nous avons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, ce n'est qu'un résumé. Je pense que cette conversation, ce dialogue interconfessionnel a duré peut-être 1 heure. Le temps que les disciples étaient partis pour chercher des vivres et revenir, il faut le mettre dans son contexte. Mais il a dit simplement que ça n'allait pas dans sa vie. Et il essaie de redresser la situation morale. Et puis il continue. Il continue avec un redressement doctrinal. Il le dit simplement, c'est dans le verset 22, si je me souviens bien, Jean 4, verset 22. Oui, parce que la femme avait changé de conversation, en parlant justement des montagnes où on devait adorer le Seigneur. Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, quand même, quelle baffe! Et il avait dit plus ou moins la même chose à Nicodème. Nous annonçons des choses que nous connaissons. Et alors il dit, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, malgré le fait qu'ils avaient le Pentateuch. Nous adorons ce que nous connaissons. Il parle au nom des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Il est catégorique. Mais je pense qu'il a dit ça tout à fait gentiment. Vous savez, madame, vous, les Samaritains, vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, le salut vient des Juifs. Nous avons reçu la révélation de Dieu. Et nous le savons. Un point, c'est tout. On ne va pas discuter là-dessus. Mais il était catégorique, il était net, il était clair. Et c'est ça que j'aime avec mon Sauveur, qui savait entretenir un dialogue interconfessionnel. Il y a là un message pour nous de ne pas tourner autour du problème, d'être aussi clair que possible. Et puis, à la fin, le Seigneur, il se révèle. Concernant cette histoire de « le Messie doit venir », il dit « vous savez, madame, moi je le suis. Ce Messie, je le suis. » Et il a dit ça, n'est-ce pas, avec cette parole, il n'a pas dit « je le suis », il a dit « je suis ». « Ego emi » en grec. Et c'était le nom, un peu la partie du nom de l'Éternel de l'Ancien Testament. Je suis celui qui suis. Je ne sais pas si la femme a compris, mais elle connaissait le Pentateuque. Elle savait que le Messie devait venir. Probablement, elle faisait référence à Deutéronome chapitre 18, un prophète comme Moïse. Elle connaissait. Mais alors, Jésus dit, eh bien, ce prophète, il est là devant toi. Et alors, la femme, elle était bouleversée. Et nous savons le résultat, n'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est le réveil. Elle laisse sa cruche. Pourquoi elle a laissé sa cruche? On peut imaginer un tas de choses. J'ai trouvé 9 raisons pour lesquelles elle aurait pu laisser sa cruche. Hein? Mais intéressant. Mais toujours est-il qu'elle a laissé sa cruche. Elle est allée voir et dire aux hommes de la ville, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est la preuve que le Seigneur avait dit beaucoup plus que ce qui est rapporté dans Jean chapitre 4. Alors voilà, il faut être clair. Il faut de l'audace. Qu'est-ce qu'il a dit, ce révolutionnaire de Danton? Pour que la France soit sauvée, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Il nous faut une sainte audace. Une audace qui vient de l'autorité et de la parole de Dieu et qui nous vient par le Saint-Esprit. Pas comme Danton le disait, n'est-ce pas, en criant sans doute, c'était un orateur, n'est-ce pas, de toute sa force, mais en nous-mêmes, nous disons, nous devons être courageux pour dire les choses telles qu'elles sont. Que le Seigneur lui soit en aide. Je viens à la dernière partie, l'écho qui est reçu il y a quelque temps par le biais de Reinald Kosicki, mais ça provenait de Colin Crowe, 3 d'écho. Merci Colin, qui était dans le coup. Il a parlé, Colin Crowe, de concertation, communion, collaboration. Très bien. Nous, à la FEF, nous parlons d'écho depuis très longtemps, surtout avec Maurice Secker. On parle de contact, j'ai fait une erreur de frappe là, c'est ça, voilà. On parle de communication, puis de communion, puis de concertation, et de collaboration. J'ai mis quelques mots en dessus. Contact, très souhaitable. Je le redis, depuis Vatican II, nous pouvons avoir contact facile avec le curé du coin. Et ça, c'est un privilège. C'est quelque chose. Il faut en profiter. Il faut avoir un contact amiable. Même si on ne parle pas de religion, on peut parler quand même de la pluie et du beau temps. Et c'est un contact amical. Et la communication, ça c'est nécessaire. Quand on fait une exposition sur la Bible, nous invitons tous les curés hein, dans les villages alentours. Et il faut bien. Il faut cette communication. Et il faut savoir ce qu'ils disent. Ils communiquent par les encycliques dont on a déjà parlé, et par d'autres écrits. Et c'est nécessaire. Nous devons apprendre. Et nous devons dire ce que nous faisons. Nous avons pignon sur rue, et bien il faut dire ce que nous faisons au moment de notre culte. Peut-être même pour inviter un curé à venir voir une fois. Pourquoi pas? Mais alors, quand il est question de communion, je mets là si l'autre est sauvé. Parce que autrement, il peut avoir une certaine amitié, vous voyez, amitié, mais on ne peut pas avoir vraiment une communion fraternelle. Le problème n'est pas trop difficile. À moins que la personne qui vient d'une église multitudiniste, et surtout d'une église catholique, est vraiment sauvée. Ça lui met sur la corde raide. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est sauvé. On se rend compte, son langage. Mais est-ce qu'on va nécessairement prier avec lui? Alors, là, c'est mon expérience, c'est ma décision. J'ai décidé, à un moment donné, que je n'allais pas prier avec des idolâtres. Alors je le dis comme ça, parce que quand ils adorent l'hostie, quand ils prient Marie, et qu'ils aussi la louent, oh je sais qu'ils parlent de vénérer, et enfin ils ont toutes sortes d'expressions difficiles pour expliquer ça, mais moi je dis, je ne peux pas prier avec quelqu'un qui prie aussi Marie, et qui adore, qui se prosterne devant l'hostie. C'est une idolâtrie. Et il faudra de l'audace quand on rencontre une personne catholique et on voudrait parler un petit peu avec lui. Et puis on pense, est-ce qu'on peut prier ensemble ? Et lui poser la question, mais monsieur ou madame ou cher ami, est-ce que vous priez encore Marie ? J'ai dit oui. Alors comment dire ? Je ne peux pas prier avec vous ? Peut-être il vaut mieux ne rien dire pour ne pas le blesser, parce qu'on ne veut pas blesser les personnes gratuitement. Mais je crois qu'il faut trouver, et chacun de vous doit le faire, trouver comment vous allez vous comporter dans une telle situation. Je prie régulièrement avec des autres pasteurs, avec une personne catholique, charismatique, et il a un groupe de prière, il est le berger de ce groupe de prière. C'est un homme qui annonce la parole de Dieu, qui évangélise. Et avant de l'inviter à ce petit groupe de pasteurs, juste 3 ou 4 à l'époque, j'ai dû lui poser la question, mais Hubert, est-ce que tu pries encore Marie ? Et c'était difficile pour moi de poser cette question. Il a répondu que non. J'étais aux anges. Et puis on prie régulièrement avec lui. Mais poser la question comme ça. Il y a quelque temps de cela, n'est-ce pas, quand David Sutherland est arrivé à Arras, on est allé voir l'évêque d'Arras, l'évêque catholique, parce qu'il était arrivé un peu de temps avant. Alors on a attendu un petit peu, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une belle photo de David dans le journal, dans la Voix du Nord, hein, pour que l'évêque il soit au courant de l'affaire. Et puis, je lui ai écrit en disant, est-ce qu'on pourrait se dire bonjour ? Juste comme cela, déjà. Il a répondu, cher frère. C'est bien. Alors on est allé le voir. Et j'espérais qu'il n'allait pas nous demander de prier avec lui. Et il n'a pas demandé ça. Et on était soulagés. Parce que ça aurait été très difficile. Mais vous voyez, je crois que le Seigneur nous aide quand il est dans des situations difficiles. On est quelquefois et assez souvent sur la cour de raid ou au pied du mur et on ne sait pas comment faire. Et il faut compter sur l'intervention du Seigneur. Mais s'il le faut, eh bien, que Dieu nous donne cette sainte audace pour rendre claire notre situation. Concernant la consultation, c'est parfois possible. On peut concerter avec les autres, mais beaucoup plus facilement, avec des protestants, même s'ils sont multitudinistes, et puis encore plus facilement avec les évangéliques. La collaboration, j'ai mis simplement, rarement possible. C'est rarement possible. Il y a quelque temps de cela, il y avait une exposition sur la Bible, une grande exposition à Lille, enfin, Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est le métropole du Nord. Et c'était bien organisé, avec les évangéliques, plein dedans. Et puis, il y avait des conférences avant, il y avait des conférences pendant, il y avait des conférences après. Et alors, malgré le fait que les évangéliques étaient dedans, je n'ai pas vu le nom d'un pasteur ou d'un orateur évangélique qui était dans le programme. Pourtant, il en avait de capables. À ce moment-là, il avait Pierre Lannoy. Pierre Lannoy, n'est-ce pas, c'est quelqu'un de... il est avec le Seigneur maintenant, mais quelqu'un de très fort, n'est-ce pas. Je crois qu'il était en promotion avec Michel Roca à l'école polytechnique. Mais enfin, vraiment, il aurait pu parler. Il a fondé des œuvres. Il aurait pu parler, par exemple, de la Bible et le social. Il n'était pas invité. Ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai dit, ben voilà, n'est-ce pas, il tire la couverture de l'autre côté. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention quand nous collaborons, ou si vous avez la liberté de le faire. Je vais terminer, parce que le temps est passé. Dans toute cette affaire, je l'ai déjà dit 2 fois, nous nous trouvons souvent sur la corde raide. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber, ni à droite, ni à gauche. Il faut vraiment compter sur le Seigneur. Je pense que le Seigneur peut le faire. Je raconte en terminant une petite expérience dans le nord de la France. Il y a quelques années de cela, une famille évangélique, dans un village un peu gros, 3000 âmes, mais voulait rendre témoignage aux villageois, les gens de sa ville. Ses enfants, les enfants de ce frère, allaient dans une école catholique, et puis ils n'avaient pas de salle municipale, si je me souviens bien, donc ils ont demandé la salle paroissiale Saint-Joseph, pour voir si on pouvait faire là l'exposition sur la Bible. Et c'était accepté. C'était accepté. Alors, on s'organise, et puis je reçois de la part du curé la publicité qu'il avait fait. Il avait fait de la bonne publicité d'ailleurs. Avant l'exposition, il avait vendu une vingtaine de Bibles à ses paroissiens. Bon, c'est de la bonne pub, ça. Mais alors, quand je reçois ce qu'il avait écrit, grande exposition écuménique. Pierre Willet, là-dedans, je me demandais ce que je devais faire. Ben, le Seigneur m'a donné l'aide, parce que je ne voulais pas décourager, je ne voulais pas faire avorter cette exposition, en disant à ce curé, que je connaissais déjà un petit peu, « Non, vous vous trompez, cher ami, je ne sais pas comment je l'ai appelé, ce n'est pas une exposition écuménique, c'est une exposition évangélique que nous sommes heureux de mettre dans votre local et pour laquelle nous vous remercions. » Ben, il a joué le jeu. Il a joué le jeu tellement bien, je n'étais pas là ce jour-là, mais quand il y avait des paroissiens, de ces paroissiens qui visitaient l'exposition et qui ont entendu des explications sur l'évangile, et que ces paroissiens avaient un peu de doute concernant ce message évangélique, ils ont regardé au curé qui était aussi dans la salle, et le curé qui avait tout entendu, avec sans doute un sourire de banane, vous savez, n'est-ce pas, ils savent le mettre, il a dit « Moi je suis protestant !» Comme ça. C'est formidable, hein, de pouvoir parler comme ça. Mais enfin, on comprenait ce qu'il voulait dire. Il ne disait rien. Et je vois là la bonne intervention du Seigneur. Dans toute cette affaire, je pensais que j'allais être, en quelque sorte, à cause de mon livre, taché, je m'excuse de le dire, peut-être sali, critiqué. Je pensais peut-être qu'on allait m'appeler hypocrite. Et le Seigneur m'a protégé, je le dis comme ça, tout simplement. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous nous tiendrons debout, même sur la corderette. Le Seigneur nous donnera la force. Parce que c'est marqué en Romains chapitre 14, verset 4, le Seigneur a le pouvoir de nous soutenir. Dans tout le travail que nous avons à faire, dans le domaine du dialogue interconfessionnel, avec quelque personne que cela soit, nous avons à compter sur le Seigneur pour qu'il nous tienne, pour que nous soyons fidèles, pour que nous soyons armés de cette sainte audace dont nous avons besoin pour pouvoir apporter la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous soit en aide. Je vous remercie et Amen. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça?
Eh bien, on y va.
C'est intéressant ce que tu me dis.
On y va.
Je pousse le bouchon un peu plus loin. On nous a posé en dernière pastorale, c'est un cas très concret, du mois dernier, en disant, est-ce que vous voulez faire partie de la commission, que le maire de la ville de Grenoble a créée, dans laquelle figure un représentant de l'Église catholique, un représentant des protestants, des juifs et des musulmans. Alors, moi je trouve que c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il y allait avoir ce genre de manifestation annoncée, je crois qu'à l'occasion de la fête des commémorations de cet été-là, du débarquement, et avec proposition, demande du maire que défile au micro les diverses autorités religieuses pour dire une intention de prière. Alors, notre cher frère Baptiste disait, mais ce sont que des prières juxtaposées, ce n'est pas des prières écuméniques. Alors, on voit plus sur les mots, mais comment tu gères ce truc?
Oui.
Je ne suis pas la conscience de ce que vous faites, mais je n'ai pas résolu la question. Je n'ai pas répondu à toi. Je ne sais pas ce que je fais.
Oui.
La réponse aux questions, c'est la table ronde de bain.
Mais oui, je sais pas. Alors, voyons, plus que les contacts, mais c'est très important.
vaincu au Fils d'Esprit et ils seront présentés à Pierre et aux autres membres de la table ronde demain matin. Parce que le débat pourrait continuer très tard.
Merci Colin d'avoir précisé les choses, mais merci aussi Jean-Luc d'avoir posé ta question. Voilà.
Donc Colin a donné la première annonce pratique, la boîte à questions. Une deuxième annonce pratique, après 22 heures, il faudrait être très très silencieux dans la maison. Alors merci à Pierre Wheeler. Peut-être... Peut-être on pourrait remercier le Seigneur encore pour la parole lue, commentée, et puis après nous séparer. Est-ce que Jacques Legrand voudrait prier ?